Les archives d'Afrique, Alain Foka.
Bonjour à tous et bienvenue dans un magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Il ne manque plus au Togo que la consécration de sa vocation internationale. Cette consécration, vous venez de la lui accorder en l'admettant au sein de l'Organisation des Nations Unies.
Il est certainement l'un des premiers à avoir très clairement exigé l'indépendance des territoires africains juste après la Seconde Guerre mondiale. Pour lui, cela allait de soi après le lourd tribut payé par le continent dans la guerre de libération du colonisateur entre 1939 et 1945. Une simple amélioration du statut et du traitement des populations ne suffisait plus. Il était temps, selon lui, de passer à une autonomie réelle. Il est également l'un des premiers à militer en faveur de l'unité africaine, d'une intégration continentale. Une union pour parler d'une seule voix face aux nations riches et aux grands ensembles qui se constituaient. Pourtant, Sylvanus Olympio n'entretenait pas de bons rapports avec l'un des chantres du panafricanisme. Son voisin Kwame Nkrumah, le président du Ghana. Suite et fin aujourd'hui de notre série consacrée à Sylvanus Olympio, le père de l'indépendance du Togo.
Je peux vous assurer que cette union régionale tant souhaitée entre les Nigeria, les Dahomey et les Togo est en bonne voie. Les études et discussions continuent. Notre problème le plus urgent n'est pas, comme on le prétend, la nécessité absolue pour tous les États africains de vivre sous un seul et même régime politique. Ce qui presse, au contraire, c'est la lutte pour notre développement économique et culturel, l'épanouissement de nos pays que nous avons réussi à libérer de l'exploitation coloniale. Or, ce développement ne peut être rapide que si tous les États africains s'entendent et collaborent franchement entre eux sans aucune prétention d'hégémonie. Voilà les credos du groupe dit de Monrovia. Et cette conviction a toujours été également la base de notre politique étrangère, car elle traduit bien nos idéaux de fraternité, de paix et de démocratie.
Fervent partisan de l'unité africaine, Sylvanus Olympio, qui est à la tête du Togo depuis 1958 et qui a eu le privilège de proclamer l'indépendance du jeune État, est de tous les grands rendez-vous continentaux. Il est respecté de ses pairs et sa maîtrise de l'anglais et du français fait de lui l'un des interlocuteurs, des interprètes privilégiés entre l'Afrique d'expression anglaise et celle de langue française. Mais le fin diplomate, le premier diplômé noir de la London School of Economics, doit faire face à l'hostilité de son voisin immédiat. Le Ghana de Kwame Nkrumah, qui estime que le Togo tout entier doit être intégré dans son pays, qu'il s'agit d'une création artificielle du colonisateur qui ne répond pas à une réalité ethnique ou sociale. Olympio, de son côté, regrette plutôt qu'une partie de l'ethnie Ewe soit incorporée au Ghana. Et si avec l'indépendance, il est obligé de mettre un peu en sourdine cette exigence, le président ghanéen, lui, n'a pas capitulé. Et la tension entre les deux nations ne baisse toujours pas.
Suivi la situation géographique du Togo, la relation que nous sommes obligés d'avoir avec les Ghana doit être une relation plus amicale. C'est parce que la population du Togo français, ainsi que la population qui se trouve à Ghana, notre voisin, essentiellement la même. Et si vous voulez bien revoir cette question de notre point de vue, l'histoire même de notre peuple, c'est l'histoire d'un seul peuple. Il n'y a que les Européens qui ont fait des frontières artificielles entre les Ghana et les Togo français. Et une fois que nous avons notre indépendance, et étant donné que le Ghana est aussi indépendant, nous avons 18 ans africains qui peuvent discuter amicalement la relation qui doit exister entre les deux pays.
Une discussion amicale est quasi impossible entre Kwame Nkrumah et Sylvanus Olympio. Pour le premier, l'union des deux nations n'est pas négociable. Il s'agit, comme le précisait à l'instant le président Sylvanus Olympio, d'un même peuple. Pas question de conserver le statu quo. pour le chef de l'État ghanéen, il fallait à tout prix réunir les deux territoires. Certains imaginent même déjà une guerre entre les deux nations, tant la tension est importante. Mais devant la communauté internationale qui l'interroge sur la question, Sylvanus Olympio préfère minimiser la gravité de la situation.
I don't see any contradiction in it at all. If you have followed our history, during the colonial regime, we didn't come out with an outright demand for independence at the start.
Je ne vois aucune contradiction là-dedans. Si vous avez suivi notre histoire pendant le régime colonial, nous n'avons pas réclamé l'indépendance depuis le début. Nous avons seulement pointé les difficultés d'échange entre le Ghana et le Togo. Et nous pensions à cette époque surmonter certaines de ces difficultés. Par exemple, de supprimer les barrières douanières, d'harmoniser les taxes, mais aussi de faciliter la circulation des personnes et des biens. Par conséquent, si vous êtes indépendant, si la République du Togo est indépendante, et que le Ghana devient aussi un État africain indépendant, ce serait beaucoup plus facile de parvenir à nos fins, à savoir d'abolir les barrières douanières, faciliter la libre circulation des personnes et des biens, et ainsi rendre la vie beaucoup plus facile. Voyez-vous, pendant le régime colonial, les indigènes qui vivaient au Ghana parlaient exclusivement de sujets britanniques. Et nous qui vivions au Togo, on était assimilés à de bons Français. Cela a disparu aujourd'hui. Le fait d'être deux pays indépendants aujourd'hui devrait rendre la collaboration plus facile.
All that has disappeared now. We are just pure African citizens of independent states, and collaboration should be very much easier.
Sur le plan interne, Sylvanus Olympio, qui dirige un jeune pays sans grandes ressources naturelles, dont les seuls revenus proviennent d'un gisement de phosphate, dont la capacité de production n'atteint pas le million de tonnes par an, les difficultés sont de plusieurs ordres. D'abord économique, il faut moderniser l'agriculture. Il va même procéder à une répartition des terres et une amélioration des techniques agricoles.
Les problèmes du progrès de l'agriculture togolaise résident essentiellement en l'amélioration des pratiques culturales, assolement, engrais, taille, culture, atelier, etc. C'est donc une question d'éducation du paysan. C'est pourquoi les pouvoirs publics togolais veulent donner un essor considérable à l'encadrement et la vulgarisation agricole.
Éduquer les paysans, former les agronomes, apporter une nouvelle approche de l'agriculture. Une ambition qui, bien sûr, suppose des mesures d'austérité particulièrement difficiles à supporter pour les paysans, ce qui va contribuer à le rendre impopulaire.
Les services de l'africanisation des cadres, créés en janvier de cette année, a eu pour première tâche la création de l'école togolaise d'administration, ouverte le 16 mars et destinée à la formation de ses personnels. Nous sommes effectivement en chemin. Les étapes sont parcourues les unes après les autres. Et je vous en donne l'assurance formelle. Nous atteindrons notre but, tous ensemble.
Le second problème auquel Sylvanus Olympio doit faire face est une double opposition politique qui va l'amener à durcir son régime. Il doit d'abord faire face à l'opposition de son beau-frère Nicolas Gruneski du Parti du Progrès et l'Union des chefs de la population du Nord, dont le leader est Antoine Meyachi. Devant la menace que fait peser sur eux Sylvanus Olympio, les deux leaders vont choisir la solution de l'exil. Nicolas Gruneski s'enfuit au Dahomey, tandis qu'Antoine Meyachi s'installe au Ghana.
La Juvento, telle que nous l'avons connue avant, n'existe plus. Vous savez très bien que Juvento avant était la jeunesse de CUT, ça veut dire de mon parti. Mais depuis quelque temps, la Juvento a voulu créer un parti tout à fait séparé du CUT et nous avons accepté cette situation depuis l'année dernière d'ailleurs et nous avons déclaré officiellement que nous reconnaissons la Juvento seulement comme parti d'opposition. Depuis cette date, naturellement, il y a eu une vague de démissions des partis des Juvento pour former ce que nous appelons maintenant des groupes d'action de la jeunesse qui fait partie des comités d'unité togolaise. Ainsi, les Juventus aujourd'hui, en dépit de déclarations qui ont été répétées, à savoir qu'ils ne veulent pas être séparés des comités d'unité togolaise, n'existent plus comme un parti. Il reste vraiment, ils ont une situation assez précaire. Et si je vous dis qu'aujourd'hui, Juventud comme parti n'a plus une influence proprement dit, ne représente plus ce qu'il représentait avant, ce n'est pas une exagération. Tout le monde peut vous dire au Togo. Et nous lui avons proposé de réintégrer les partis, ça veut dire notre parti qui était parti mère, et puis de supprimer les Juventud purement et simplement. Et je crois que c'est ça qui va arriver bientôt.
Les leaders des mouvements de jeunesse du CUT, le parti d'Olympio, la Juventud, qui a pris son indépendance et ses distances avec le pouvoir, vont également constituer l'une des oppositions les plus fortes au régime en place. Une opposition que Sylvanus Olympio accuse d'être manipulée par le Ghana afin de le déstabiliser. Il choisit donc, devant leur menée subversive, de les arrêter et de les embastiller. Maître Anani Santos et Firmin Abalo, les leaders de la Juventud, vont donc se retrouver en prison. Des prisons qui voient de plus en plus arriver des activistes politiques. Qu'est-ce qui explique, Gilles Chris Olympio, un tel durcissement du régime? Pourquoi tant de leaders se sont-ils retrouvés en prison? On a beaucoup parlé de nombreux prisonniers politiques enfermés dans des conditions inhumaines, abominables pendant cette période.
Il y avait des grands noms, des gens qui étaient en prison à l'époque. Il y avait Nani Santos, Firmin Abalo, et je crois deux ou trois autres messieurs, bien connus comme Ben Apalou. La raison réelle, c'est que le gouvernement les accusait d'avoir trempé dans un coup d'État avorté, soi-disant manigancé à partir du Ghana. On ne pouvait pas les amener au tribunal parce qu'en 1963, il n'y avait pas de magistrats qualifiés togolais en service. Les magistrats qui étaient au Togo étaient là-bas dans le cadre de l'assistance technique française et le gouvernement français ne voulait pas que ces magistrats participent ou juge des affaires politiques. Donc, ils étaient en prison. On attendait de trouver des magistrats pour les juger. Les conditions abominables, soyons un peu prudents, les prisons en Afrique et au Togo ne sont pas des lieux agréables. Mais j'ai eu à discuter longuement avec des gens comme Anani Santos, qui est d'ailleurs membre de notre famille et ami personnel. Les conditions n'étaient pas aussi mauvaises. Il y avait des gens qui étaient exprès à leur disposition pour les soigner et leur donner à manger. Donc, le nombre des prisonniers, nous avons compté à peu près 10 prisonniers. Le chiffre avancé par le régime du général Yadema varie de 100 à 500. Personne ne connaît la vérité.
C'est vrai que sur le nombre des prisonniers, les chiffres varient considérablement et le débat n'est pas prêt d'être clos. Mais sur les conditions des détentions, tout semble unanime pour reconnaître qu'elles étaient particulièrement dures. En 1961, le torchon brûle entre le président Sylvanus Olympio et les militaires togolais détachés de l'armée française après l'indépendance de leur pays. Les anciens de la coloniale qui se sont battus aux côtés de l'armée française sur plusieurs théâtres de combat souhaitent rejoindre les rangs de l'armée de leur pays nouvellement indépendant. Mais le chef de l'État, Sylvanus Olympio, refuse de les intégrer dans la jeune formation togolaise. Contrairement à leurs frères d'armes des autres nations francophones qui ont été accueillis à bras ouverts, ils sont rejetés par Sylvanus Olympio qui les considère comme des traîtres, des mercenaires qui ont combattu des peuples qui n'aspiraient à autre chose qu'à la liberté. Un choix motivé également par le fait que Sylvanus Olympio ne voulait pas que leurs subsides, leurs soldes, passent par la paierie de l'ambassade de France au Togo. Et puis il ne faisait absolument pas confiance à ce soldat qu'il trouvait malléable, facilement récupérable par l'ancienne tutelle. Voici comment le ministre Michel Yao Kounale et Clos décrivait la situation dans un magazine il y a quelques années. C'était 3 ans seulement avant sa disparition.
Quand le Togo a pris son indépendance, le gouvernement français a posé la question aux militaires qui servaient sous ce drapeau s'ils regagnaient le pays et se mettre à la disposition des gouvernements en place.
Comme cela se passait dans tous les pays.
Oui. Et ça n'a pas été possible pour le Togo. Quand ils étaient rentrés, Olympio a refusé de les recevoir. Ils ont fait une délégation pour aller lui rendre visite et lui dire « Nous sommes là, nous voici, nous mettons à la disposition du gouvernement. » Il a refusé de les recevoir. Il dit qu'il n'a rien à faire avec les gens qui ont servi sous les drapeaux étrangers, drapeaux coloniaux.
Gilles Chris Olympio, vous ne semblez pas très d'accord avec cette lecture des choses. Qu'est-ce qui expliquait le refus de votre père d'intégrer tous ces soldats togolais qui avaient servi dans l'armée française?
À l'époque, on n'avait presque pas d'armée au Togo. Il y avait en tout cas pour les services de sécurité, armée, gendarmerie, police, à peu près 300 hommes, pas plus. Ceux qui sont revenus d'Indochine et d'Algérie n'étaient pas nombreux non plus. Je crois qu'il y avait en tout cas une trentaine. Mais ils voulaient à tout prix créer une deuxième compagnie. C'est ce que Olympio ne voulait pas accepter pour des raisons, budgétaires. Le budget du Togo faisait à l'époque un peu plus de 2 milliards de francs CFA, pas plus. Deuxièmement, la ferveur nationaliste était telle au pays qu'on considérait ces gens revenus d'Indochine et d'Algérie comme les ennemis de l'indépendance. Olympio aurait, je dis que c'est très important, aurait dit que c'était des mercenaires. Bon, ces mercenaires s'expliquent comment ? Ce qui se passait, c'est que le Togo n'était pas une colonie, un peu comme le Mali, le Sénégal, le Cameroun, le Rwanda, le Burundi et les autres là. Par conséquent, ceux qui se sont intégrés dans l'armée française l'ont fait à titre personnel. Je crois même qu'il y a des membres, le futur président du Togo s'est présenté comme ressortissant du Niger et a été accepté dans l'armée coloniale française. D'ailleurs, à leur retour, il n'est pas revenu au pays, il est parti au Bénin, qu'on appelait dans le temps
le Dahomey,
et a travaillé pendant longtemps pour le général Allais comme son conducteur de taxi, une petite affaire qu'il avait. Donc, disons que ces mercenaires, entre guillemets, n'étaient pas très populaires dans le pays.
Mais il faisait quand même partie d'un accord passé avec le Togo qui était de réintégrer cela dans l'armée togolaise.
Oui, attention, il n'y avait pas d'armée à l'époque, il y avait 300 hommes. Avec un seul officier qualifié, c'est le capitaine Dadjo, que la France a bien voulu laisser pour conduire l'armée togolaise. C'est vrai, Olympio ne voulait pas une deuxième compagnie au Togo parce que le pays ne pouvait pas se le payer.
Et puis il avait peur que ce soit des mercenaires qui puissent le renverser.
Peut-être ceci dans son subconscient. Mais il croyait aussi que avec l'accord passé avec la France, on devait le trouver des subsides. Et ces subsides devaient transiter par le trésor togolais. Il était contre ce système d'avoir une pairie à l'ambassade de France où ces gens allaient tirer tout le mois leur salaire ou leur subside. Il y avait beaucoup de conflits de ce genre dans la période qui a suivi.
L'historien Atouché Agbobli raconte.
Il est de caractère dominateur, il s'identifie au pays, il sait dire non quand il pense que l'intérêt supérieur du pays l'exige. Raison pour laquelle il sera en difficulté avec, pas une armée togolaise, mais une compagnie d'à peu près 250 personnes.
Oui, mais l'armée était presque insignifiante à l'époque.
Tout à fait insignifiante. Que des forces de sécurité, à savoir police, gendarmerie, garde togolaise, existent pour assurer la sécurité intérieure du pays, c'est exact. Mais en 1963, il y avait toute une petite compagnie de 250 hommes contrôlé, encadré par des Français. Et je vous dirais même que celui qu'on peut appeler le patron de cette armée-là, le gendarme français Georges Métrier, était mis à la disposition du gouvernement français, du président Olympio par la France. Et c'est lui qui dirigeait en même temps le cabinet militaire du chef de l'État et assumait le rôle de chef d'État-major. Le 16 mars 1962, quand on signait les accords d'Évian, le président Olympio était à l'époque à l'hôtel Crillon en route pour l'Amérique. Il avait dit à son beau-fils, Éric Amerding, c'est une très bonne chose, mais je crains fort que l'ancienne puissance coloniale n'utilise ses soldats démobilisés pour déstabiliser les nouveaux États indépendants en Afrique.
Au milieu de ces soldats de la coloniale qui désirent être intégrés dans l'armée nationale togolaise, un certain sergent-chef Étienne Yadima, très actif, très pressant, l'historien Atouché Agbobli raconte.
Il était rentré d'Algérie en septembre 1962 et comme certains démobilisés d'Algérie, il tenait à être intégré dans l'armée pour pouvoir survivre. Et le chef de l'État qui avait, disons, un mépris pour la chose militaire, qui pensait que le Togo de l'époque n'avait pas besoin d'une armée face à un Ghana nettement plus puissant qui en avait les moyens, face à un Nigeria dans la région, ne voulait pas intégrer tous les soldats que la France avait démobilisés.
Samedi 12 janvier 1961, il règne une certaine tension à Lomé. Le président Sylvanus Olympio, qui devait assister à l'inauguration du centre culturel français, s'est décommandé au dernier moment. Une énième excuse en un an qui montre bien le climat de méfiance qui règne entre le chef de l'État et l'ambassadeur de France au Togo, Henri Mazoyer. Sylvanus Olympio s'emploie à marquer son indépendance vis-à-vis de la France en n'accédant pas souvent à ses demandes, fussent-elles protocolaires. La défiance est telle que l'Institut Goethe a été inauguré avant le Centre culturel français. Au grand dam de l'ambassadeur, Mazoyer, habitué dans les anciennes colonies françaises d'Afrique, a beaucoup plus de prévenance. Mais dans l'ambiance délétère qui règne dans la capitale togolaise, l'on attribue ce report du président à la peur. Une rumeur selon laquelle des militaires s'apprêtent à l'arrêter ou en tout cas à le renverser court depuis quelque temps. Il s'agit de soldats togolais qui combattaient depuis 1953 dans l'armée française et qui souhaitent être reversés dans celle de leur pays, comme leurs frères d'armes des autres colonies françaises nouvellement indépendantes. Ils sont en réalité quelques centaines de démobilisés. Il faut dire que dans tous les autres pays, ils ont été reçus sans aucune difficulté par les nouveaux régimes. Seuls donc le Togo et la Guinée de Sékou Touré refusent de les intégrer. Ces derniers vont même carrément prendre des mesures pour empêcher leur retour. Ces soldats guinéens, baptisés demi-soldes, vont finalement être accueillis au Sénégal. Au Togo, le président Sylvanus Olympio est moins brutal, mais reste ferme. Il estime que ces soldats qui ont reçu de maigres pécules de l'ancienne tutelle doivent les investir dans des activités productrices. Pour lui, pas question de les intégrer dans son armée. Les négociations menées par l'ambassadeur de France ne vont rien changer à sa décision. Ce qui n'est pas pour calmer ces soldats pour qui c'est d'abord une question de survie. Ce soir du dimanche 13 janvier 1963, le président Sylvanus Olympio travaille sur le discours qu'il doit prononcer lors du voyage qu'il va effectuer en début de semaine au Libéria où il a été invité par le président Tubman. Il est question justement de mettre au point le projet de texte de la charte constitutive de l'Organisation de l'Unité Africaine dont la rédaction lui a été confiée par le groupe de Monrovia, sorte de club des chefs d'État modéré par opposition aux radicaux dits de Casablanca.
Au mois de juin, nous avons assisté à une seconde conférence de Lagos. Cette conférence, qui devait réunir les ministres des Affaires étrangères de tous les pays indépendants d'Afrique, était chargée d'étudier les projets des chartes de l'organisation interafricaine et malgache présentés en janvier dernier. Une charte remaniée est maintenant proposée et nous avons bon espoir qu'elle sera approuvée par la prochaine conférence d'Addis Abeba qui groupera, nous l'espérons, tous les chefs d'État africains.
Alors que Sylvanus Olympio travaille donc sur son texte, sur son projet de texte de charte, son attention est attirée par une vive discussion inhabituelle entre des gardes en faction devant la grille de sa villa et une dizaine de militaires en tenue de combat. Il aperçoit cette scène de la fenêtre de son bureau situé au premier étage. Les sentinelles vont rapidement être neutralisées. De son bureau du premier étage, justement, Sylvanus Olympio, qui a compris ce qui se passe, va se précipiter vers la pièce où se trouvent son épouse Dina et les nièces qui ce soir-là sont chez lui. Il leur demande de se mettre à l'abri. Pendant ce temps-là, à l'extérieur, les soldats qui ont envahi la villa tirent sur la maison. Mais Olympio, profitant de la confusion et de la désorganisation qui accompagne cette attaque, va descendre par le jardin arrière et escalader le mur de séparation avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Il tente ensuite d'ouvrir les bureaux de l'ambassade, mais ils sont fermés. À ce moment, il aperçoit dans la cour de la chancellerie une voiture garée. Il s'y précipite. Dans le calme, il s'y cache plié en deux sur la banquette arrière. Pendant ce temps, les putschistes fouillent la villa de fond en comble. Son épouse, qu'ils interrogent, leur fait comprendre qu'il n'est pas là et qu'elle ne sait pas où il se trouve. De l'autre côté du mur, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Léon Poulada, qui a été tiré de son sommeil par la fusillade, décide de se rendre sur les lieux des affrontements. En passant, à proximité de la voiture en stationnement dans la cour, il entend Sylvanus Olympio l'interpeller. Il lui raconte ce qui se passe. Monsieur le Président, ne bougez pas, je vais chercher les clés. Dans moins d'une demi-heure, vous serez à l'abri. L'ambassadeur le laisse sur place et retourne dans l'enceinte du bâtiment de la représentation américaine. De l'autre côté du mur, les soldats semblent un peu désemparés. Ils n'ont pas pu arrêter Silvanus Olympio qui leur a filé entre les doigts, sans laisser de traces. Ils sont donc obligés de retourner au camp militaire de Tourcoing qu'ils avaient conquis quelque temps avant l'opération. Mais en ville, d'autres putschistes vont remplir la mission qui leur est assignée, à savoir neutraliser le gouvernement en arrêtant l'ensemble des ministres. Mission accomplie, objectif atteint, comme on dit dans l'armée, puisque seuls deux membres du gouvernement vont échapper à la rafle, celui de l'information et celui de l'intérieur. Mais au camp de Tourcoing, le résultat de l'opération n'est pas satisfaisant. À 5 heures du matin, quatre des putschistes décident de se lancer à nouveau à la recherche du président qui leur a échappé. Il est forcément dans le coin, tout près de la villa. Vu comment la zone était quadrillée, il n'a pas pu aller bien loin. Il décide donc de retourner chez lui à la villa. Cette fois-ci, il faut prendre le temps de le débusquer. Y parviendront-ils? L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique va-t-il arriver à temps pour mettre le président de la République du Togo à l'abri? Nous en parlerons dans une dizaine de minutes, dans la suite et la fin de cette série que nous consacrons à Silvanus Olympio. Dans cette dernière partie, nous écouterons quelques témoins de cette histoire. Rendez-vous donc juste après le journal pour la suite d'Archives d'Afrique. Mais en attendant, voici une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.